Le nombril de Vénus, Juliana, sur Canal B. Émission curieuse pour Radio Curieuse.
Bonjour tout le monde, c'est Juliana pour une nouvelle émission Le nombril de Vénus sur Radio Canal B. Nous étions nombreux au théâtre de la Parcheminerie samedi 6 novembre dernier pour la rencontre auteur organisée par la librairie Le Fayeur avec Timothée de Fombelle et la sortie du deuxième tome de la trilogie Alma parue aux éditions Gallimard Jeunesse. Ce dimanche, je vous propose de découvrir l'enregistrement sonore de cette rencontre avec Timothée, qui est un auteur prestigieux de la littérature jeunesse. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici au théâtre de la Parcheminerie pour cette rencontre organisée par la librairie Le Fayeur avec Timothée de Fombelle. Bonjour Timothée.
Bonjour.
Eh bien Timothée de Fombelle, on ne vous présente plus en fait, hein, clairement. Au regard d'ailleurs du public qu'elle a aujourd'hui, il y a des jeunes, de moins jeunes, mais nous sommes tous, alors moins jeunes que nous sommes, peut-être avec un enfant à soi bien réveillé à la lecture des livres de Timothée. C'est un auteur et dramaturge reconnu qui a reçu beaucoup de prix avec ses livres précédents, en 2006 déjà, avec le fameux Toby Lovness, pas moins de 8 prix quand même dans la littérature jeunesse en relation avec cette littérature. Et puis à partir de 2010, deux tomes également comme Toby Lovness de Van Gogh, plusieurs prix. Et puis on arrive en 2020 avec la sortie de Alma, le tome 1, qui a reçu des prix également, bien sûr, pour citer meilleur livre jeunesse par Lire Magazine, le prix Gulli 2020 et le prix Sorcière. Qu'est-ce que ça vous fait de recevoir des prix comme ça?
Alors, l'idéal serait que je dise, mais je m'en fiche, moi, ce qui compte, c'est de vider mon cœur sur le papier et ensuite qui m'aime me suivre. Mais je trouve ça pas désagréable, parce qu'il y a quand même une solitude dans l'écriture, des doutes, quel que soit, je voyais en passant, en entrant, l'état de livres, et je me disais, quand même, c'est une œuvre. Et pourtant, je suis tremblotant, c'est la première fois que là, je prends le train pour parler d'Alma 2, qui vient de paraître. C'est vrai que la rencontre avec un lecteur ou une lectrice en tête à tête, ou une rencontre comme ça avec des lecteurs qui, un samedi après-midi, sont partis de chez eux pour venir. C'est aussi des médailles, hein. C'est aussi pour moi des prix, mais voilà, tout est bienvenu pour montrer qu'on s'adresse à quelqu'un, qu'il y a quelqu'un de l'autre côté du papier quand on écrit.
Avant de rentrer dans la trilogie Alma, dont nous avons deux tomes aujourd'hui, et nous allons parler plus particulièrement de la sortie très récente de tome 2, qu'est-ce que ça vous fait d'être dans un théâtre pour parler de ce, avec le public, justement, qui est dramaturge?
C'est un retour aux sources, c'est vrai. J'ai quand même beaucoup déserté le théâtre. J'ai commencé en écrivant du théâtre, parce que le théâtre... et comme quelque chose de moins intimidant d'un certain côté que le texte imprimé, définitif, soi-disant parfait, le théâtre, ça, l'imperfection va être corrigée par des comédiens, par des gens qui font des lumières, par quelqu'un qui fait le décor, par tout ça, et on se dit tant pis, c'est pas parfait, mais si ça se trouve, ça sera un chef-d'œuvre quand tout le monde s'y mettra avec moi. Le roman... il doit y avoir, il faut que ce soit, ça sera le lecteur qui en fera un chef-d'œuvre, c'est lui qui finira le travail. Mais j'ai adoré écrire pour le théâtre et j'ai été bouffé tout à coup par mes romans parce que j'ai écrit Toby Lovness, qui était une histoire simplement qui ne tenait pas dans un théâtre. C'est comme ça que, pour ça que j'ai écrit ce roman, mon premier roman avec une petite humanité d'un millimètre et demi qui vit dans un arbre. C'était impossible à mettre dans un théâtre et donc Et donc, je me suis dit, je vais prendre un théâtre en papier qu'on appelle le roman, et j'ai démarré l'histoire. Et ça s'est bien passé, et puis surtout, j'ai trouvé la liberté. Justement, je faisais les lumières, je faisais les décors, je faisais les costumes, je faisais la direction d'acteurs, je faisais tout dans le roman. Et ça m'a enivré, et j'ai jamais arrêté d'écrire le roman. Heureusement, je reviens un peu à la scène à des moments. Je travaille avec une chorégraphe en particulier, Valérie Rivière. Ça, c'est un grand bonheur d'écrire pour une compagnie de danse, d'écrire. Puis il y a des adaptations qui sont faites de mes livres à différents endroits. Mais je vais revenir au théâtre et je suis trop content, là, grâce à la librairie, grâce à Juliana, grâce à vous, là, de me retrouver sur scène, de me donner des petites impressions. J'ai créé ma première troupe lycéenne à 15 ans, 16 ans. J'ai recruté ma femme comme actrice dans cette première troupe. Elle avait 17 et moi 18 quand je l'ai. Donc c'est le moment clé de ma vie, ça a décidé de ma vie. Et j'adore le théâtre et je passe beaucoup de temps au théâtre.
Il faut dire quand même qu'il y a dans l'œuvre Alma, la trilogie, les deux livres, il y a beaucoup de théâtre dedans finalement. Votre expertise théâtrale est dans le livre. Céleste, déjà par le changement de décor dans les chapitres, très inscrit. Enfin, je ne parle pas forcément de décor dans le voyage, parce que c'est très bien que ce livre me fait beaucoup voyager et beaucoup changer d'ambiance, mais il y a des passages vraiment très marqués sur les trois propositions d'actes que vous suggérez.
Très intéressant, effectivement, je fais rarement ce rapport. En quoi le théâtre nourrit mon écriture, mais je suis sûr que, par exemple, dans le dialogue, ce dialogue qui agit, c'est pas du dialogue pour meubler entre deux personnages. Dans le théâtre, s'il n'y a pas des dialogues, il y a des dialogues et des corps, évidemment, sur scène, mais s'il n'y a pas des dialogues, comment il se passe quelque chose? Il faut que les dialogues soient l'action elle-même. Et ça, j'y tiens beaucoup. Et puis, ces déplacements de personnages, chorégraphie encore, ces entrées et sorties, comment faire entrer un personnage Je peux passer des heures à me dire, mais comment je vais faire rentrer ce personnage? Il faut qu'il rentre de manière intéressante, il faut qu'il... Et c'est ce qu'on fait au théâtre, en effet.
Et la création des personnages, bien sûr.
Oui, ça c'est peut-être le plus important, parce que quand j'y pense, mes personnages évoluent grâce à leur rencontre, donc grâce à d'autres personnages. Et donc il faut que chaque personnage va influencer le développement de mes personnages principaux, et c'est ça ma fabrique du héros c'est simplement il se frotte aux méchants, aux gentils, peu importe, à tous ceux qui les entourent, à leur famille, et c'est, il y a que ça qui fait bouger les personnages et les épreuves sont toujours apportées par les personnages. Et alors là, il y a un moment où d'ailleurs ce n'est plus des personnages, je n'arrive pas à me dire que la famille d'Alma, et alors là, c'est que peut-être elle n'existe pas. Enfin, je l'ai inventée, quand je pense que je l'ai inventée, mais je refuse, là, je le dis là, mais je refuse cette idée qui n'existe pas. Et ça devient ma famille, vraiment. Ça devient des proches. Et je me souviens, en quittant Van Gogh, par exemple, mon roman en deux volumes, j'avais pu vivre quand même plusieurs années avec ces personnages. Les adieux à Van Gogh, à Ethel, à toute cette galerie de personnages avec lesquels j'avais vécu, c'est une sorte de... Oui, c'est sur un quai de gare, des adieux définitifs. Et ma seule consolation, c'est que peut-être que là, en ce moment, à la librairie Le Fayeur, quelqu'un est en train d'acheter le Van Gogh et va découvrir... Et en fait, non, c'est le début. Pour lui, c'est le début. Et ça me rassure un petit peu, parce que pour moi, c'est fini. Enfin, sauf si je suis à tome 3, à tome 4. Et pour Alma, 3 volumes, justement, pour faire durer cette fréquentation de ces êtres qui ne sont pas que de papier pour moi.
C'est marrant, parce que c'était ma dernière question, hein, dans mon programme. Mais je vais la poser tout de suite. Est-ce que 3 tomes vont souffrir? Parce que franchement... Oui. Là, dans le 12e, on voit l'ampleur de cette histoire et tout ce qui a encore possibilité de devenir dans ce troisième tome, franchement, je me demande, est-ce que vous n'êtes pas planté quelque part là, Il ne fallait pas plus.
Est-ce que vous êtes payé par mon éditeur qui, à mon avis, serait ravi d'un quatrième volume, d'un cinquième, ou de Alma à la ferme, ou Alma découvre la Bretagne. Mais non, moi j'ai besoin d'un début et d'une fin. J'ai depuis le début la fin et j'ai très envie un jour d'avoir ce qu'on appelle des héros récurrents. Ces héros, on peut lire tous les livres, je sais pas, un Arsène Lupin ou un héros qui revient sans qu'il y ait vraiment d'ordre. Il pourrait y avoir 25 aventures, mais pour l'instant je sais pas très bien faire. J'ai besoin de construire l'histoire, donc j'ai les verrous, j'ai préparé mes coups de théâtre, mon feu d'artifice final, donc tout est, alors avec beaucoup d'imprévus, y compris d'ailleurs ma disparition soudaine sous un train ce soir en partant à Paris, tout peut arriver, mais j'aime bien quand même cette fragilité des choses qui sont, c'est ma consolation quand j'ai quelques plaintes de lecteurs qui trouve qu'il faudrait que les trois livres arrivent en même temps.
Oui.
Moi, oui, enfin, merci.
Ça fait 2023, c'est un peu long, mais on va aller piquer à d'autres choses sur le feu, là.
Mais en fait, il y a quelque chose de... Enfin, par exemple, penser à... J'aurais aimé, par exemple, sans vouloir faire la comparaison du tout, hein, mais c'est entre nous, hein, c'est, voilà,
oui,
même si je vois un truc qui enregistre.
Mais
j'aurais aimé être un lecteur du journal Le Siècle, attendant le Comte de Monte Cristo, le 42e épisode, et sans penser qu'il y a le pauvre Dumas là, qui est au boulot, en train de se dire qu'est-ce que je vais bien leur raconter demain. Et j'aime bien ce côté, cette littérature en train de se faire, et je ne dis pas qu'une rencontre comme ça va pas... Il y a encore des choses qui peuvent bouger, il n'y a pas des petites... par exemple, un quatrième volume...
un imprévu de la vie.
Voilà, un imprévu, exactement. T'es nourri par le temps qui passe, par la vie, par les rencontres. Ça, c'est ce que je dis là aussi à mon éditeur quand, surtout pour le tome 1, quand voilà, je prenais des années pour bâtir un peu ma petite mécanique là, je disais c'est tout le temps perdu et gagné quoi. C'est vraiment à partir du moment où je suis pas à me tourner les pouces que je suis au travail.
Every star above knows the one I love. Sweet Sue, just you. And the moon up high knows the reason why. Sweet Sue, it's you. No one else it seems ever shares my dreams. Without you dear, I don't know what I'd do. In this heart of mine, you'll be all the time. Sweet Sue, just you.
Sommes ensemble jusqu'à midi. Vous êtes sur Canal B, l'émission Le Nombril de Vénus avec Timothée de Fombelle et le deuxième tome de Alma.
Et ben voilà, ça te donne vraiment l'opportunité maintenant, parce que peut-être vous n'avez pas lu Alma 1 et vous êtes peut-être sous le point de lire le 2, si vous avez déjà lu le 1, eh bien, il y a plusieurs héros dans ces histoires qui racontent donc Timothée. Évidemment, l'héroïne principale, c'est Talma, mais il y a aussi Joseph Marx qui est un héros. Il y a aussi des héros à devenir là, parce que dans le tome 2, il y a des nouveaux héros qui sont introduits, etc., etc. Bref, un petit topo quand même. Donc, on est en 1786 de bonne mémoire, et on est dans un coin d'Afrique qui ressemble un peu à un paradis très préservé, naturellement parlant, avec une famille, des enfants et puis des animaux, dans une très jolie prairie, mais il y a déjà quelque chose qui cloche, parce que les enfants qui sont dans l'herbe en train de jouer avec un animal qui est un zèbre sans rayures, ça va pas. Parce qu'eux-mêmes, ils ont conscience que cet animal est un petit peu différent des autres qu'ils ont l'habitude de côtoyer. Donc déjà, il y a une faille. Et cette faille va amener à l'histoire qui est racontée dans le tome 1, c'est-à-dire Alma et sa famille qui habitent au cet endroit-là, petit à petit, par des circonstances différentes pour les uns et les autres, vont quitter cette vallée. Alma, parce qu'elle a appris à monter le cheval, son petit frère Lame, et donc le zèbre n'étant pas un zèbre, c'est un cheval. Et comme elle a appris, bah, peut-être qu'elle est allée un poil trop loin, elle a quitté la vallée, et Alma, se sentant très responsable de cette situation, va commencer vraiment à songer à aller aussi à la recherche de ce petit frère. Et puis, tous les autres membres de la famille, pour des circonstances que je ne vais pas énumérer aujourd'hui, vont aussi finir par quitter la vallée. Alors que les parents, ils sont très au courant que s'ils sont dans cette vallée-là, c'est pour se protéger eux-mêmes et leurs enfants, puisque pas très loin de là, sur la côte ouest de l'Afrique, il y a, à cette époque, des navires qui viennent pour chercher des captifs et pour ramener, pour travailler dans d'autres continents, notamment le continent américain et les Caraïbes, dans les plantations de cacao, de sucre, de coton, autant qu'esclaves. Voilà, grosso modo, dans quel paysage on va évoluer, c'est vraiment plein d'aventures. Ça a un côté spirituel très fort. Alors, je ne parle pas de connotation religieuse, mais vous avez quand même créé un peuple, Oko, qui est vraiment le dernier, enfin, ils sont vraiment les derniers de ce peuple à être dans cette vallée, hein, parce que la maman de Alma Nao est la seule, la dernière survivante de ce peuple Oko, qui est un peuple tout à fait imaginaire, hein, et qui a des dons qui sont absolument extraordinaires. Donc par là, elle va infuser beaucoup de côté spirituel, de côté rapport avec la nature, rapport avec les hommes, les femmes, etc. Il y a une foi immense. Alors, petit aparté, je suis brésilienne, Alma, dans ma langue, ça veut dire âme. Très joli. Donc, tout de suite, on épouse. Pour terminer avec le tome 1, donc il y a beaucoup d'aventures, on va trouver énormément de personnages qui vont sillonner de part et d'autre, parce qu'il y a des moments où ça se passe aussi dans le continent européen, on va vraiment avoir beaucoup d'aventures, parce qu'il faut quand même qu'on avance jusqu'au tome 2, pour ceux qui n'ont pas lu. Et Alma, toujours, toujours, il est dans l'âme, dans la quête d'aller chercher le petit Lame qui s'est sauvé de cette vallée enchantée. Je veux juste compléter, parce que ce livre n'est pas anodin pour vous, hein, Timothée Mandela, c'est-à-dire que vous étiez dans cette côte ouest africaine lorsque vous étiez adolescent, et par votre découverte personnelle, vous vous êtes promis qu'un jour, vous allez raconter ce que nous sommes en train de découvrir aujourd'hui.
Oui, c'est vrai. D'abord, bravo pour le résumé, parce que c'est vraiment très rare qu'on ose s'attaquer à essayer de voir quels sont les fils et comment ça... Et ça m'intéresse beaucoup, beaucoup d'entendre comment on peut raconter cette histoire qui, a priori, effectivement, mêle beaucoup, beaucoup d'histoires. Mais le point de départ, c'est à 13 ans, 14 ans en effet, où j'ai, Je vivais, en fait, mon père était architecte et de temps en temps, on voyageait avec lui pour passer une année au Maroc, 2 ans en Côte d'Ivoire. Et quand j'étais en Côte d'Ivoire, on est parti un jour découvrir les forts qui sont sur la côte du Ghana, la côte, l'ancienne côte de l'or. Et ce sont des forteresses qui appartiennent aux Espagnols, aux Portugais, qui appartenaient aux Anglais, à tout le monde, à vrai dire, ou à presque tout le monde, qui se partageaient ces différentes forteresses qui étaient des points de convergence des différents trafics d'esclaves qui venaient de captifs, qui n'étaient pas encore des esclaves, ça allait être le travail qui allait les transformer plus tard en esclaves, mais pour l'instant ils étaient captifs, ramenés de toute l'Afrique. Et j'ai découvert ça, c'était des lieux complètement à l'abandon à ce moment-là, pas du tout visités. Il y avait pas ce qui existe maintenant un peu plus, des sortes de pèlerinages de gens qui reviennent sur les traces de leurs ancêtres arrivant des États-Unis ou des Caraïbes. Et ça a été un choc énorme de découvrir à la fois, d'ailleurs presque en même temps pour moi, l'existence de l'esclavage. J'avais beau être dans un lycée franco-ivoirien, j'avais à peine entendu parler, à collège, j'avais à peine entendu parler de l'esclavage, et puis je découvrais en même temps ces lieux abandonnés, gagnés par la végétation, avec la mer qui rentrait dans les sous-sols de ces forts blancs posés sur le rivage. Et j'ai eu un vrai choc dans mon corps de voir ces anneaux. Parce qu'en fait, c'est des lieux, ils avaient abandonné il y a finalement très peu de temps, enfin 130 ans plus tôt, au moment de l'abolition, en 1850. En fait, même un peu avant, parce que je pense que les trafics étaient interrompus depuis un certain temps, enfin, les trafics officiels. Et donc je c'est comme si j'étais un peu le premier à revenir là avec ma famille, notre chien, les 5 enfants et mes parents, arrivant dans notre petite Mazda 323 par les sentiers de bord de mer. Et ça a été quelque chose de très 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 émouvant pour moi, et j'écrivais déjà des histoires, donc je me suis promis que j'allais raconter, je pensais commencer dès le lendemain, et c'est ce que j'ai plus ou moins commencé à faire, mais ensuite il y a eu 35 ans, comme je ne suis pas un rapide, comme vous avez fini par le comprendre, 35 ans qui sont passés avant que je m'y mette complètement. Mais pendant ces 35 ans, je pense qu'il y a des mille choses qui sont passées. D'abord, j'ai ramassé cette vigilance sur ce sujet qui faisait que je collectais tout ce qui était possible pour bien connaître ce crime qui a duré 400 ans, pour ne parler que de la traite atlantique. Et puis, parallèlement, je suis sûr, mais ça je peux m'en rendre compte seulement maintenant, je suis sûr que je préparais le terrain en écrivant d'autres romans, Toby, avec une dimension fantastique assez importante, dans lequel des gens sont tombés en croyant que c'était un livre d'héroïque fantasy, puis se retrouvaient dans une histoire familiale, une histoire bien autre chose. Il y a juste la première phrase qui est fantastique, mais le reste l'est à peine. Ensuite, Van Gogh, on me suivait de confiance en se disant, puis ensuite le livre de perles, et ainsi de suite. Et je pense que je préparais pour ne pas embarquer que des gens passionnés par ce thème-là, pour embarquer même ceux qui sont un peu inquiets de remuer des sujets très sombres, quand j'ai parlé de crime, c'en est un, c'est une tragédie et un crime contre l'humanité. Et donc je pense qu'aussi, d'un certain côté, je vérifiais que les lecteurs étaient là, stratégiquement, pour pouvoir leur raconter cette histoire et qu'ils ne s'enfuient pas en courant. Et donc, je ne regrette pas ce temps qui est passé entre cette rencontre à 13 ans, là, et puis le moment où je m'y suis mis, là j'ai 48 ans, mais je m'y suis mis à 5-6 ans vraiment de manière sérieuse. Voilà, oui, 6-7 ans. Mais c'est très. Je pense qu'il y a un moment où je ne pourrais plus dire comme ça, comme je le fais à peu près systématiquement pour chaque livre, ça vient de l'enfance, oui, les racines de ce livre, c'est dans mon enfance et tout ça. À un moment, j'en aurais fini avec les racines de mon enfance, mais non. Il y a toujours, toujours, toujours quelque chose qui pousse là. Faut pas que ça pousse trop vite, parce que là, par exemple, j'ai un troisième tome qui n'est pas fini. Or, c'est le moment où on commence à papillonner des envies d'histoire. Est-ce que tu n'écrirais pas juste une petite histoire romantique, toute simple, qui se passe aujourd'hui, sans documentation, sans... et là, j'ai dit, non, va-t'en. Et hop, Alma 3.
Coconut water,
4 for 5.
Man is good for your data,
4 for 5.
Cocoa got a lot iron,
4 for 5.
Make a strong like a lion,
4 for 5.
Rawr. Our lady tell me the other day, no one can take my sweet man away. I ask her what was the mystery. She said a coconut water and a rice curry. You can cook it in a pot,
4 for 5.
You can serve it very hot,
4 for 5.
Cocoa got a lot iron,
4 for 5.
Make a strong like a lion,
4 for 5.
Roar. Aye, aye, aye. Coconut, the woman is agree. Coconut make very nice candy. The sing that best if you're feeling glum. It's coconut water with a little rum. Could make very tipsy,
4 for 5.
Make you feel very gypsy,
4 for 5.
Cocoa got a lot of iron,
4 for 5.
Make you strong like a lion,
4 for 5.
Aye, aye, aye. Every day you can hear shout, coconut woman is calling out. And every day you can hear shout, get your coconut water,
4 for 5.
Man is good for your data,
4 for 5.
Cocoa got a lot of iron,
4 for 5.
Make a strong like a lion,
4 for 5.
Jusqu'à midi, autour de la rencontre avec Timothée de Fombelle, organisée par la librairie Le Fire au théâtre de la Parcheminerie, autour du deuxième tome de Alma, paru aux éditions Gallimard Jeunesse.
C'est-à-dire que l'histoire, elle reste quand même, on est au XVIIIe siècle, mais elle reste quand même très contemporaine en soi. Ouais. Les rapports entre les personnages sont inscrits de manière pérenne dans l'histoire, et y compris celle que nous vivons aujourd'hui.
Oui.
Et combien même, alors c'est la question que j'ai envie de poser, parce que dans le livre, quand on lit Alma 1, on comprend, il y a une suggestion très forte en tout cas, du moment où on comprend qu'un captif devient un esclave. Et je me permets de vous demander, est-ce que c'est vraiment votre approche de la chose, c'est-à-dire qu'un captif devient un esclave lorsqu'il perd l'espoir?
Oui, C'est vrai. Alors, j'ai beaucoup réfléchi à tous ces, à toutes ces étapes-là. Il y en a que je développe maintenant. D'ailleurs, je prends le temps, je fais une sorte de... je ralentis le temps à certains moments. Je pense à un moment qui est peut-être un des moments clés que je décris. C'est dans le tome 1 où je décris le moment où on embarque les esclaves dans ces pirogues qui vont aller pour traverser la barre et aller vers les navires. Et il y a ces esclaves enchaînés qui n'ont jamais vu la mer, pour la plupart, qui sont là. Et ils retombent juste pour pouvoir retoucher une dernière fois le sol, le sable. Ils sont dans les premières vagues et on les soulève et on les met dans... Et ce moment-là, je pense que c'est un des moments, une des charnières terribles dans l'arrachement à ce continent. Est-ce que c'est... L'esclavage, pour moi, c'est quand même vraiment lié, peut-être davantage encore, vraiment au travail, c'est-à-dire à la mise... quand ils arrivent sur les plantations, dans Alma 2, il y a surtout... Je développe deux plantations en particulier, une de canne à sucre et une de coton en Louisiane, une canne à sucre à Saint-Domingue. Et là, ça devient vraiment... Et l'espoir, c'est un... L'espoir...
Elle est importante notamment pour la traversée. Pendant des mois, ils sont à la mer et le capitaine de bateau, qui est le capitaine Gardel, il est très très au courant de comment être très inhumain vis-à-vis de ses esclaves pour que tout se passe bien jusqu'à la fin du voyage. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez...
Ouais, c'est un dosage entre... Ouais. Et ça, je l'ai lu dans les recommandations. Il y avait à chaque fois une lettre de recommandation. C'est quand même passionnant de pouvoir se plonger dans d'essayer de combler tous les trous, tous les vides qui sont en fait le vide sidéral et qui est le vide de l'absence de la parole de ces esclaves, de ce silence du pont inférieur du bateau. Où, n'ayant pas ça, il faut essayer de comprendre ce qui s'y passait par d'autres moyens. On peut le faire par l'architecture navale, comprendre dans quoi vivait pendant la traversée, ou alors comprendre les gestes dans le champ de canne à sucre. J'ai mis des jours et des jours à comprendre exactement ces gestes. La canne de 3 mètres qu'on tranche en deux fois pour avoir 3 morceaux, puis on tranche le petit toupet, on accroche, on le jette sur le sol, les femmes le ramassent, le mettent dans les charrettes à deux roues qui partent vers les moulins à sucre. Et ça, c'est très important de comprendre ces gestes. Et ça, les livres d'histoire n'en parlent absolument pas. Il faut vraiment faut trouver les moyens. Et je pense là, pour ce thème-là, sur comment éviter les révoltes à l'intérieur du bateau, comment garder pas trop d'espoir, mais pas trop de désespoir non plus. Il y a un dosage, et ça je l'ai vu dans la recommandation d'un armateur, un armateur qui avait probablement jamais mis les pieds sur un bateau, mais qui, à travers tous ses capitaines, avait dû collecter une sorte de psychologie de base du fonctionnement du navire négrier. Et il disait au capitaine, dans cette lettre de recommandation qu'il donnait, il disait justement ça, c'est-à-dire la petite gorgée d'alcool qui est donnée le dimanche et qui donne un but pour rester vivant dans la semaine, ou des petites choses comme ça. Et c'est terrible, mais c'est mon rôle d'auteur de rentrer y compris dans la tête des méchants, où je pense à le personnage d'Amélie qui est... Je suis dans son... Je fais avec elle son business plan de dans sa plantation.
Début d'industrialisation.
Voilà, complètement. Tout à fait.
Ça y est, on est rentré dans le tome 2, là, parce qu'on est à l'esclavage, là. Clairement, ça veut dire que le tome 1, ils sont jusqu'au moment où ils vont quitter le bateau, finalement, un petit peu. Le tome 2, on y est, quoi. Ça y est, les esclaves ont été vendus ou sont en train d'être vendus. Et Amélie, qui est un personnage déjà très important dans le tome 1, va revenir, elle est fille d'armateur, et elle hérite, on va dire, la fin de la fortune de son père, et il reste quelque chose encore, c'est ses terres à Saint-Domingue, pour la plantation, notamment de canne à sucre, elle veut faire une vraie raffinerie.
Voilà.
Et c'est incroyable comme elle a tout compris. En fait,
oui,
à la différence de son père, en plus, c'est une vraie gestionnaire.
Ah oui, oui, voilà, c'est exactement. Ce fameux trésor de sa fortune a disparu. Il y reste ces terres là, dans près de Jacmel, dans le sud de Saint-Domingue, entre la mer et les montagnes. Et il lui reste 150 esclaves là. Elle attend la revente du bateau qui est parti, qui va lui permettre de réinvestir dans cette plantation pour l'améliorer, parce qu'elle voit qu'elle va dans le mur, la plantation, elle arrive dans ces lieux. La plupart des propriétaires étaient très, ce qu'on appelait absentéistes, c'est-à-dire ils étaient dans leurs hôtels particuliers ou leurs châteaux en France, et puis ils géraient de loin, puis il y avait des contremaîtres et des gestionnaires qui étaient sur place. Et elle a plus que ça, donc elle reprend la propriété. Et en effet, elle comprend comment ça marche. Elle est dans les livres de contes de son père depuis. Elle a appris à lire dans ses livres.
C'est une machine de guerre.
Oui, oui, oui.
Elle a écrit avec elle pour ça.
Et c'est très étonnant. C'est mon éditeur d'ailleurs, Thierry, qui m'avait dit avant, mais j'ai un problème, c'est que je m'attache à Amélie. Comment alors que c'est vraiment.
Et vous l'avez rendu sympathique.
Mais oui.
C'est terrible.
Il faut quand même comprendre qu'il y a, je ne sais pas combien de dizaines ou de centaines de millions d'Européens, d'Américains qui ont supporté l'esclavage en trouvant ça normal, absolument normal, pendant des siècles et des siècles. Donc on ne peut pas juste projeter notre.
C'est une culture.
Je ne peux pas d'entrée projeter mon jugement sur Amélie. Je dois être avec. Et par contre, j'avoue que j'ai décidé de la faire. Enfin, j'ai décidé dès le début. Je veux qu'elle ouvre les yeux à un moment. Mais elle tarde. Elle tarde parce qu'elle veut sauver l'honneur de sa famille, parce qu'elle veut. Elle veut que ça marche, tout ça. Elle veut que ce soit rentable. Elle veut que. Et quand elle se dit, je vais. Allez, il y a peut-être encore.
Elle veut faire une start-up.
Voilà, elle fait une start-up. Exactement, elle fait une start-up. Mais c'est très. Et ça, c'est lié aussi à un sujet très important de cette période-là, du 18e, fin 18e et début 19e, où on voit que tous les mécanismes, effectivement, de la révolution industrielle sont testés dans les plantations d'esclaves avec des ouvriers très particuliers, puisque ce sont. Des biens meubles, comme on le disait en droit, c'est-à-dire qu'ils n'ont absolument aucune liberté et donc sont corvéables à merci jusqu'à la mort, même si la mort n'arrangeait pas le propriétaire, donc il y avait là aussi un dosage très léger, parce que par exemple, j'ai vu les problèmes de nourriture, d'alimentation, de sous-alimentation dans les plantations, et on ne comprend pas comment c'est possible de la force de travail d'une plantation, comment c'est possible de l'abandonner de cette manière. Mais bon, tout ça, là, c'est le point de vue vraiment des maîtres, et y a évidemment, il faut en creux, en permanence. Mon but, c'est pour ça que ça s'appelle Alma, et que c'est que je veux remplir cette béance-là de l'absence de la parole des esclaves, et ça, c'est la fiction qui le permet. Et ça, c'est un tel réconfort de pouvoir rendre vivants ces individus, pas ces masses indifférenciées, 12, 15 millions de personnes arrachées à leur terre, mais des individus, des destins personnels, chacun, des amours, des amitiés, des liens, des révoltes. Et ça, c'est j'ai réalisé très tard, très récemment, que c'était ça, en fait. C'était remplir ces vides que je voyais partout, dans les livres de contes, justement, de ces plantations. Vous pouvez suivre un prénom qui apparaissait, tiens, il vient d'être acheté, tiens, il est malade, tiens, il est guéri, clac, il est plus dans les personnes qui vont au champ, ah si, il revient, il a un enfant, il est revendu. Et ça, on n'avait que ces pointillés, mais inhumains, et donc le roman et la littérature, une de ses missions, c'est de remplir ces vides de ses vies.
rock and roll man, Mr. Rock and Roll Man, come and see us soon. Rattle, shake and roll man, rattle, shake and roll, I can roll my own tune. Yeah, I can roll, roll my own tune. Piss blood and soul, man, piss blood and soul, you'll come and see us soon. Put up priced and sold, man, put up priced and sold, you know I want one, two, yeah, you know I want one, two. It to my door, man, you can come in from the cold and I'll look after you. We're beggars born and grown, man, beggars born and grown, you know I'll be one too, yeah, you know I'll be one too.
Nombrilo de Vénus, tous les dimanches de 11h à midi sur Canal B. Aujourd'hui avec l'auteur Timothée de Fombelle pour la sortie de tome 2, Alma, l'enchanteuse.
Vous avez compris, cette rencontre n'est pas pour spoiler le livre. Néanmoins, je peux vous dire quelque chose de très important pour cette deuxième lecture. Si vous allez dans la poursuite avec Alma. Donc Alma, elle a toujours sa quête. Elle a inébranlable, envie de retrouver son frère. Et petit à petit, elle va continuer en fait dans cette quête. Là, on a quitté l'Afrique, on est arrivé dans différents lieux, on a parlé de la Louisiane. Dans ce livre, on parle de Saint-Domingue, mais on parle aussi de Paris, de Londres, de Liverpool. Ouais. Et il y a beaucoup de choses qui se passent, c'est-à-dire qu'on a eu dans le premier tome un moment très intense avec Amélie Ladouce, le nom de navire, dans lequel on va vraiment se projeter, y accompagner et entendre toutes ces histoires jusqu'à l'issue. Et puis là, ça va être un peu plus dispatché, on va davantage comprendre qu'il y avait plein de navires avec plein de destinations différentes, des plantations différentes, des personnages, des colons qui se comportent selon. Et notamment, il y aura Bouton la Chance par exemple, qui est un personnage très fort qui arrive et qui est particulièrement cruel quand même vis-à-vis de ses esclaves, parce qu'en plus on peut différencier. Hein. Le degré en fait de cruauté, de pertinence par rapport au travail, où est-ce que ça se niche, quoi. C'est ouais. Quand même hallucinant.
Oui, ouais, ouais, là pour le coup, l'avantage c'est que cette partie-là est documentée parce qu'il y a cette correspondance entre ceux qui étaient sur place, les contremaîtres, les maîtres, quand ils s'absentaient pour une année ou quand ils étaient carrément absents. Donc on sait ces rapports de force qui existaient dans les plantations entre les régisseurs, les chefs d'atelier. Donc tout ça c'est vrai que ça fait une galerie de personnages. Et en particulier, donc il se trouve que ces deux femmes, ce sont deux femmes qui dirigent les deux plantations, qui sont l'endroit où est Alma et l'endroit où est Lam, où passe Alma seulement, mais où est surtout Nao, sa mère, et l'endroit où est Lam, sont
plantations de aussi, son grand frère.
Et son frère, tout à fait. Et ces deux plantations me permettent de montrer deux. deux patronnes, là, qui sont Amélie qui vient d'arriver, et puis Madame Bouton La Chance, vieille tradition depuis 100 ou 150 ans, et qui, c'est plutôt ces plantations louisianes de coton un peu plus installées.
Avec des enjeux politiques particuliers, oui, aussi par rapport à sa géographie.
Exactement,
ils sont dans le Nouveau-Mexique, et fait, les États-Unis, ils sont vraiment dans un territoire qui est en train de créer un devenir. On est dans la géopolitique.
Oui, en fait, c'est quand même à chaque fois quand on raconte une histoire qui est dans le réel et
dans la grande histoire,
on ouvre une porte et puis il y en a 12 à nouveau, et c'est ça qui fait que mais c'est pour ça que autant j'essayais de parfaitement connaître le mieux possible en tout cas tous ces enjeux-là, mais ensuite il n'y a aucune raison, moi je suis toujours affolé quand tout à coup on se retrouve dans un roman et il y a un roman historique et il parle forcément de géopolitique, mais simplement l'auteur, alors, c'est pas la peine d'en parler, mais l'auteur doit les maîtriser parce qu'il
peut vous appuyer sur cette histoire.
Voilà, je peux m'appuyer sur cette histoire. Et cette histoire est d'une richesse folle. Je pense à une petite parenthèse qui, elle, n'était pas prévue dans mes programmes. Autant je suis plutôt un bâtisseur à construire mon histoire. Mais il y a un détour que je fais à un moment qui n'était pas prévu. J'avais un bateau, je ne veux pas en dire trop, mais il y a un bateau, une épave qui est installée dans une baie là, entre Portsmouth et l'île de Wight, sur un banc de sable. Je l'avais mise là, c'était important que ce soit là, pour plein de raisons, C'était là, et je ne peux pas m'empêcher de me renseigner sur tout ce qu'il y a à ce moment-là, au printemps 1787. Qu'est-ce qui se passe exactement dans toute cette région? Parce que puisque j'ai mon bateau là, il faut que je sache. Et je découvre que dans la baie, à 100 mètres, il y a 11 navires qui sont là de janvier à mai 1787, qui sont ce qu'on appelle la First Fleet, qui sont ces bateaux qui sont partis coloniser l'Australie, vers l'Australie. Et moi, j'avais deux personnages dont il fallait que je me débarrasse absolument. Alors ça, c'est un secret entre nous. Débarrasse absolument.
Est-ce qu'on arrive aussi à se débarrasser d'ailleurs?
C'est ça, exactement. Et donc, je me suis dit, Ben c'est parfait, ils partent vers l'Australie, 20 000 km, impeccable, bonne distance, des sécurités, et pas non plus la possibilité. Normalement, j'avais préparé, d'ailleurs, dès le tome 1, un bagne qui est au-dessus vers Southampton et vers et je change mon changement de programme, je me réveille un matin, c'est pas possible, et bam, on part vers l'Australie. Mes deux personnages, j'en dis pas plus, mais sont dans ces bateaux et les bateaux partent, et une fois arrivé là-bas, à nouveau Australie, baie de Jackson Bay là, dans ce coin qui va devenir Sydney. Et là, je découvre un truc, mais c'est vraiment, c'est ma cuisine que je vous raconte là, mais je découvre que cette nuit, alors on est un an et quelques plus tard, dans cette nuit de, cette nuit de février 1788, où ces bateaux, cette flotte arrive enfin en Australie, ils sont là dans Botany Bay. Et au moment où ils vont repartir, parce qu'ils ont décidé d'aller plutôt dans la baie suivante, la baie de Jackson, il y a deux bateaux français au petit matin dans la brume. Ça, c'est dans les livres de bord du capitaine de cette flotte. Il y a deux bateaux qui sont là, et on ne sait pas, avec des aux couleurs de la France. Et en fait, je découvre que c'est l'astrolabe et la boussole, les deux bateaux de La Pérouse. Catastrophe, parce que moi je craque, j'ai deux bateaux. Alors, et boum, je m'avale 12 livres sur La Pérouse. je m'en débarrasse en un chapitre, mais pas tant que ça, parce que ça influence tout le troisième tome va être influencé par ça, par cette. Et en fait, c'est les derniers qui voient l'équipage de La Pérouse, et ils prennent le journal de bord de La Pérouse, ces Anglais, et après quelques bateaux qui appartiennent. Donc, vous voyez, c'est parce que je fais les malins en ayant mon plan, je respecte, je sais tout ce que je vais raconter jusqu'au bout, mais ça n'est supportable que parce qu'il y a la surprise de...
Ça vous apporte de l'humilité.
Ah oui, 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 oui. Et c'est ça, le plaisir, contrairement à quelques... Moi, j'ai je pense à un ami auteur qui me disait qu'il aimerait, lui... une fois qu'il a construit son histoire, il aimerait vraiment quelqu'un d'autre l'écrive. Et alors moi, je lui disais, mais pour rien au monde, c'est dans l'écriture. J'aime bien construire mon histoire, mais c'est dans l'écriture que l'essentiel se passe. C'est ce que je peux apporter, c'est l'écriture. C'est dans ce moment de l'écriture, et comment faire vivre les choses, comment aller au cœur de mes personnages. Donc, y compris faire ces rencontres inattendues.
Dans ce deuxième tome, on va continuer dans l'histoire. Il y a encore de la piraterie, il y a encore des histoires d'un trésor qui sont bien ancrées dans le premier tome, qui continuent de suivre dans le deuxième tome avec des situations assez surprenantes, disons-le, vraiment, enfin, ça n'a pas d'imagination, clairement. Et puis, il y a plein de personnages qui sont introduits. C'est très intéressant de voir ce tourneveur de personnages. Il y a des personnages presque vieillissants, entre guillemets. Par exemple, le capitaine Gardel, qui est un homme très, très présent dans le premier tome, on le sent un petit peu amoindri, tiens. Et il y a une question intergénérationnelle, comme ça, qui fait tourner aussi les personnages, puisque cette Amélie, qui était peut-être toute petite dans le premier tome, devient une femme vraiment qui tient tête à Gardel, par exemple. C'est très intéressant d'observer aussi comment les personnages évoluent. Voyons Alma. Évidemment, on est toujours avec cette héroïne, et c'est pour ça aussi que je me permets de dire qu'elle est l'héroïne principale, parce qu'elle donne l'impulsion. Alma, à un moment donné, elle grandit. Joseph a grandi. Il y a plein de choses qui se passent. Je n'irai pas plus loin. Il y a aussi un personnage très intéressant, et je trouve qu'il est indispensable quand même de le citer. Il y a un personnage dans ce livre qui va s'introduire à un moment donné, et je pense sincèrement, en lisant, je trouvais que Timothée avait beaucoup mis de lui-même dans ce personnage. C'est un jeune journaliste qui va arriver à un moment donné, qui s'appelle Clarkson. Et ce personnage, la façon comment lui, il a vécu une espèce de prise de conscience par rapport à ce qui est en train de se passer à son époque. Ce qui est intéressant dans la différence de Timothée, c'est que lui, il était vraiment dans l'époque, en fait. Mais il y a vraiment quelque chose de très similaire. C'est un peu comme si Timothée était rentré dans le tome 2, finalement. C'est un peu comme ça que je l'ai senti.
J'y pense depuis que vous m'en avez parlé tout à l'heure, parce que ça me travaille, mais je suis sûr, en effet, que ce personnage, c'est Thomas Clarkson, qui est un personnage historique, qui est un jeune garçon de 25 ans, qui... un jour fait en fait une sorte d'exposé, vraiment exposé de fin d'études dans son université, sur le thème, sur la liberté, l'esclavage, peut-on priver de liberté les esclaves, etc. Comme il fait les choses à fond, il se plonge dans, et il découvre la monstruosité de l'esclavage que son pays, ça c'était en 1785, quand il prend conscience. Et il décide de vouer sa vie à ce combat-là, et il va vivre jusqu'à 80 ans, et il est l'un des artisans. Et c'est un garçon, moi je me suis beaucoup... Il y a une seule biographie de lui qui existe, et je me suis vraiment... Enfin, ça, en effet, il m'a passionné, et il était, je crois, c'est vrai qu'il est... De même que Joseph, je pense de plus en plus que c'est le jeune lecteur qui... Son regard, c'est celui du jeune lecteur qui débarque, qui cherche un trésor, comme tous les jeunes lecteurs qui ouvrent un livre, ils cherchent, et puis qui découvre autre chose. Il rentre dans ce bateau, il ne sait même pas où va ce bateau, il cherche son trésor, et il découvre que ce bateau part pour l'Afrique, et il découvre tout ça. Et pour moi, c'est le cheminement du lecteur, d'une partie des lecteurs qui arrive pour... vraiment simplement une grande saga comme on en a besoin, je crois, et puis qui découvre autre chose que ce qui était prévu. Et je pense que c'est vrai, alors maintenant je vais perfectionner mon dispositif là, mais c'est vrai que Clarkson, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de
ma prise de conscience. Ouais, une correspondance. Ouais, dans ce livre, vers la fin, on est aussi aux portes de la Révolution. Parce qu'on est à l'aube de juillet 1789. Et puis, il y a un long passage sur Paris qui est savoureux, qui est vraiment très, très impressionnant à la lecture, on va dire. Mais je ne dirai pas plus, encore une fois. Toujours est-il que je vous demande, s'il vous plaît, de applaudir très chaleureusement. Aussi, je souhaite remercier l'équipe qui est présente ici aujourd'hui au Théâtre de la Parcheminerie pour cet accueil. Alma, qui est un personnage tellement inspirant, Timothée, pour toute la beauté de cette histoire, de cette trilogie. Ça va être long d'entendre le contrat aux éditions Gallimard, on est avec vous, Gallimard Jeunesse, on dit que ça vient vite. Je voulais vous dire qu'en tant que parent, je trouve vraiment que ce livre est indispensable pour nos adolescents et que parfois on peut même commencer un peu plus vite en lisant avec eux. Et autant que grande personne, j'ai trouvé toute mon âme d'enfant, mais pas que. Je trouve que ce livre, il est à partir de peut-être 12-13 ans, mais il est bon pour tous les âges. Merci aussi à la librairie Le Fire de sa confiance et de nous réunir ici tous ensemble avec Timothée cet après-midi. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
C'est la fin de l'émission Le Nombril de Vénus de ce dimanche. Elle est disponible en podcast sur canalb.fr. À bientôt sur le 94 MHz. Bisous, bye.